Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. La société nationale tchèque de production et de distribution d'électricité ČEZ a enregistré une baisse de 9% de son bénéfice net en 2010. Le gouvernement a adopté le projet de petite réforme des retraites. Le musée Kampa exposait les œuvres d'Adriana Šimotová, grande figure de l'art plastique tchèque du XXe siècle. ČEZ, la société nationale tchèque de production et de distribution d'électricité, a enregistré en 2010 une baisse de 9% de son bénéfice net. Celui-ci s'est élevé à 47,16 milliards de couronnes, près de 2 milliards d'euros. Les chiffres ont été communiqués ce jeudi par la société. Selon son directeur général, Martin Roman, ces résultats en baisse sont la conséquence de la crise dans la région. Dans le cadre de son programme Nouvelle Vision, ČEZ entend stabiliser la situation financière d'ici à 2015. Martin Roman a indiqué que plus de 300 milliards de couronnes, plus de 12 milliards d'euros, étaient prêts à être investis dans les 5 prochaines années. Le gouvernement a donné son aval mercredi au projet dit de petite réforme des retraites relatif au nouveau calcul du montant des pensions de retraite. Cette mesure concerne les personnes qui partiront en retraite à partir du mois d'octobre prochain. La majorité d'entre elles, environ 70% selon le ministère du Travail et des Affaires sociales, devraient percevoir une pension d'un montant inférieur aux pensions accordées actuellement. Il s'agit d'une réaction à un jugement rendu l'année dernière par la Cour constitutionnelle. Celui-ci avait constaté que les personnes revenus mensuels supérieurs à 35 000 couronnes, 1 430 euros, touchaient les pensions insuffisantes et qu'il convenait donc de modifier leur mode de calcul. Le politologue et journaliste Jaroslav Šonka sera probablement nommé nouveau directeur de l'Institut européen de la Shoah. Jaroslav Šonka devrait remplacer le directeur démissionnaire Lukáš Přibyl. L'information a été publiée par l'agence de presse ČTK. L'Institut européen de la Shoah, qui siège en République tchèque, a été fondé en janvier 2010 par le ministère tchèque des Affaires étrangères suite à la signature par une cinquantaine de pays de la déclaration de Terezín au cours de la présidence tchèque de l'Union européenne. L'Institut de la Shoah doit notamment assurer le suivi du processus de restitution des biens des victimes de l'Holocauste et devrait dorénavant siéger à Terezín. Le musée Kampa de Prague présente à partir de ce jeudi la création de l'artiste Adriana Šimotová qui fête cette année son 85e anniversaire. Figure importante de l'art plastique tchèque de la seconde moitié du XXe siècle, Adriana Šimotová est connue et reconnue notamment pour ses travaux sur papier inspirés du corps humain. Francophone, elle a exposé à plusieurs reprises en France. En 1991, elle a obtenu l'ordre de chevalier des arts et des lettres de la République française. L'exposition au musée Kampa sera ouverte jusqu'au 25 avril prochain. Temps froid mais bien ensoleillé vendredi, jour de la fête des Lilianas. Les chutes de neige modérées pourront se produire sur la Moravie du Nord. Les températures nocturnes tomberont à moins 15 degrés dans la journée et fera entre moins 3 et 1 degré. Le retour des nuages et de la neige est prévu à partir de samedi. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. Tout de suite, fais événements en République tchèque avec Guillaume Narquet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Magdalena pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au cœur de cette actualité figure tout d'abord la volonté nouvelle du ministère de l'Éducation de soutenir la création d'écoles maternelles dans les entreprises, une volonté qui vise à favoriser le retour des femmes mères tchèques au travail dans un pays où le taux d'emploi à temps partiel est l'un des plus faibles au sein de l'Union européenne. Plus de détails dans quelques instants. Économie ensuite, à l'issue de sa mission annuelle, le Fonds monétaire international a revu à la baisse sa prévision de croissance pour la République tchèque en 2011 et comme chaque année, le FMI a également appelé le gouvernement tchèque à réduire son déficit budgétaire et ce même si les réformes envisagées, bien que parfois douloureuses, sont plutôt encourageantes. Et puis musique, un grand wagnérien s'en est allé, Antonín Švorc, qui a longtemps été un des meilleurs chanteurs du Théâtre National de Prague, est mort mardi. Sa musique nous accompagnera également en fin d'émission. Mais avant cela, nous vous souhaitons une très bonne écoute à toutes et à tous. Le ministère de l'Éducation entend soutenir les écoles maternelles dans les entreprises. À partir du mois de septembre prochain, l'État pourrait financer jusqu'à 60% des frais de fonctionnement de ces écoles. La République tchèque étant un des pays membres de l'Union européenne où le taux d'emploi à temps partiel compte parmi les plus faibles, ce soutien financier vise notamment à venir en aide aux parents d'enfants en bas âge. Après la fermeture de nombreuses structures d'accueil des enfants dans les années 1990, et notamment des crèches, un grand nombre de femmes tchèques ont pris l'habitude de prendre un congé parental de plusieurs années. Une situation qui le plus souvent nuit à leur carrière professionnelle. Le taux d'emploi des mères ayant des enfants de moins de 6 ans y est donc faible et le pays se classe ainsi à l'avant-dernière place au sein de l'Union européenne, avec 33% contre une moyenne européenne de près de 60%. De leur côté, les entreprises, guère soutenues, il est vrai, par l'État, ne font pas grand-chose non plus pour permettre aux femmes de concilier vie familiale et vie professionnelle, notamment en ne leur proposant que peu d'emplois à temps partiel. Moins de 10% des femmes tchèques en activité sont ainsi employées à temps partiel, contre 45% en Allemagne, 43% en Autriche, pays voisin, ou encore 41% et 30% en Belgique et en France. Tout cela explique pourquoi, selon une enquête Eurobaromètre, seulement 1% des enfants de moins de 3 ans et 69% des enfants âgés entre 3 ans et l'âge scolaire ont fréquenté une structure d'accueil officielle, crèche ou école, en 2008. Ces chiffres sont bien inférieurs aux moyennes européennes qui étaient alors respectivement de 28 et 83%. En guise de solution, le ministère de l'Éducation entend donc soutenir les entreprises dans la mise en place de structures d'accueil pour les enfants de leurs employés. Ces écoles maternelles accueilleraient les enfants dès l'âge de 2 ans, permettant ainsi à leurs parents de retrouver leur emploi plus rapidement qu'à l'heure actuelle. C'est du moins ce qu'espère le ministre Josef Dobeš. On l'écoute.
Ces écoles seraient en mesure de répondre aux problèmes actuels, à savoir scolariser les enfants âgés de moins de 3 ans. Dans les écoles maternelles, il y a certes aujourd'hui 25% d'enfants de moins de 3 ans, mais nous ne sommes pas encore prêts pour autant à réagir à la demande pour les enfants de 2 ans, et il ne s'agit pas là d'un problème pédagogique et éducatif.
En début de semaine, le ministre de l'Éducation a annoncé qu'il entendait débloquer jusqu'à 200 millions de couronnes, soit un peu plus de 8 millions d'euros, à la réalisation de son projet. Josef Dobeš explique comment.
Le ministère de l'Éducation devrait réaliser des économies en réduisant ses effectifs et sa bureaucratie, ainsi que le nombre d'établissements dans l'enseignement secondaire. Ces économies permettraient de financer 60% des frais des entreprises par enfant. Parallèlement, ces écoles maternelles ne pourront être ouvertes qu'à certaines conditions. Il faudra employer un personnel pédagogique qualifié, respecter des normes hygiéniques et des contrôles de l'inspection seront effectués comme dans les autres écoles. Par ailleurs, les écoles dans les entreprises seront tenues d'avoir un programme cadre d'éducation.
En remplissant tous ces critères, ces écoles maternelles dans les entreprises passeraient alors sous la tutelle du ministère de l'Éducation. D'ici là, le projet doit encore recevoir l'aval de la coalition gouvernementale. Si tel était le cas, le nouveau système pourrait être appliqué à partir de la prochaine rentrée scolaire, soit en septembre ou à partir du début du mois de janvier 2012. On passe à l'économie. Comme annoncé en titre, le Fonds monétaire international, FMI, a revu à la baisse mercredi sa prévision de croissance économique pour la République tchèque en 2011 à 1,75% contre 2,2% auparavant et a exhorté également le pays à prendre des mesures crédibles de réduction de son déficit budgétaire à moyen terme. Plus de détails avec Alimoudine Ousmani.
Zuzana Murgasova est la responsable de la mission actuelle menée en République tchèque par le FMI et dont les principaux enseignements ont récemment été rendus publics. À cette occasion, Zuzana Murgasova a tout d'abord loué les fondamentaux solides de l'économie tchèque.
La République tchèque a une faible dette publique, une position extérieure relativement confortable, un secteur financier stable, ainsi qu'une intégration économique avancée avec la zone euro.
Toutefois, Zuzana Murgasova a également rappelé les défis politiques qui attendent la République tchèque. Il y a de profonds déficits fiscaux structurels et la pression fiscale va être croissante à cause du vieillissement de la population. Le FMI est principalement préoccupé par le déficit budgétaire. Pour réduire ce dernier, la responsable de la mission a proposé une série de solutions.
Il est nécessaire de prendre des mesures de consolidation fiscale additionnelles au-delà de 2011 dans des domaines aussi variés que les retraites, le système de santé et les aides sociales. Ceci servira à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs fiscaux à moyen terme et à préserver sa crédibilité face aux marchés financiers.
Concernant les retraites, le FMI a appelé à une véritable réforme du système. L'augmentation actuellement débattue par la classe politique de l'âge du départ en retraite est jugée adéquate par le FMI, même si celui-ci pense qu'il faudrait également prendre d'autres mesures, comme modifier la formule d'indexation des pensions et accroître, à côté du système par répartition, le deuxième pilier de contribution au système des retraites par capitalisation en le rendant obligatoire et non plus volontaire comme aujourd'hui. L'évaluation de la politique économique tchèque par le FMI est donc mitigée. Il n'y a aucun alarmisme, la situation ne peut être comparée à celle de la Grèce ou de l'Espagne. Néanmoins, de fortes recommandations pour réduire la dette publique sont énoncées par l'institution économique.
Pendant un demi-siècle, Antonín Schwartz a figuré parmi les meilleurs chanteurs du Théâtre national de Prague et était souvent invité par des théâtres lyriques prestigieux, notamment en Allemagne. Ce mardi, sa voix, qui a si bien servi les grands compositeurs lyriques, est tue. Antonín Schwartz a quitté la scène de ce monde à l'âge de 77 ans.
C'est toute une pléiade des personnages hauts en couleur qui a défilé dans le répertoire d'Antonín Schwartz au cours de sa longue carrière. Il a insufflé la vie à des héros, des scélérats et des sages. Sa stature athlétique et son visage expressif faisaient merveille dans le rôle de héros et le prédestinaient à de grands rôles dramatiques. Le musicologue Ivan Ruml insiste surtout sur les qualités exceptionnelles de sa voix.
C'était avant tout une somptueuse voix d'un très beau timbre et d'une technique vocale impeccable. Sa tessiture était celle d'un baryton basse et sa voix était prédestinée aux grands rôles wagnériens comme Wotan dans l'Anneau du Nibelung, le Hollandais dans le Vaisseau Fantôme ou Telramund dans Lohengrin.
Le talent d'Antonín Schwartz est évident dès le début. Il entre très tôt dans l'univers chatoyant de l'opéra, comme s'il n'avait pas besoin de mûrir. À l'âge où d'autres ne font qu'apprendre à chanter, il incarne déjà des hommes mûrs. Ivan Ruml évoque la précocité de ce talent.
Il n'avait que 22 ans lorsqu'il a été admis en tant que soliste à l'opéra du Théâtre national de Prague. Déjà en 1958, donc à l'âge de 24 ans, on lui a confié le rôle de Hans Sachs dans Les Maîtres chanteurs de Nuremberg sous la direction du chef d'orchestre Jaroslav Fogel. Très tôt, le talent d'Antonín Schwartz a été aussi remarqué par l'opéra d'État de Berlin. Il a collaboré avec ce théâtre dès 1962, donc au début de cette collaboration, il n'avait même pas encore 30 ans. C'est donc dans le répertoire de ce théâtre qu'il a pu mettre en valeur sa voix, et sur cette scène, il a chanté même dans des opéras de Richard Strauss.
Le rôle de Hans Sachs, cordonnier et chanteur de la ville de Nuremberg, a été sans doute aussi l'une des plus grandes réussites de la carrière d'Antonín Schwartz. En 1974, Antonín Schwartz, chanteur invité permanent de l'Opéra d'État de Berlin, reçoit le titre prestigieux de Kammersinger. Il chante en Allemagne, en France, en Suisse et en Italie le répertoire wagnérien, mais il excelle aussi, entre autres, dans le rôle de Pizarro dans Fidelio de Beethoven, dans celui de Budivoj de l'opéra Dalibor de Bedřich Smetana, et il est en mesure d'interpréter également des rôles extrêmement difficiles dans les opéras de Zdeněk Fibich, aujourd'hui oubliés, comme par exemple celui du pirate Lambro dans le drame lyrique Hedy. Les grands rôles dramatiques ne sont pas très courants dans le répertoire lyrique tchèque et Antonín Schwartz a donc souvent chanté à l'étranger. Il a peut-être été plus connu et plus apprécié en Allemagne que dans sa patrie. Son départ laisse un vide car, selon Ivan Ruml, les talents comme celui d'Antonin Schwartz sont rares.
To spectrum bylo velmi široké.
L'éventail de ses moyens vocaux était extrêmement large. Il s'aventurait même dans le répertoire russe et chantait entre autres dans La Dame de Pique de Tchaïkovski. C'était donc un baryton basse aux grandes possibilités vocales qui a consacré cependant la majorité de sa création à Richard Wagner.
Spektrální bas-baryton, který většinu své tvorby věnoval Richardu Wagnerovi.
Grâce au disque, la voix d'Antonin Schwartz reste avec nous. Il a partagé aussi les expériences artistiques de sa longue carrière avec ses élèves au Conservatoire de Prague.
Voilà, c'est la fin de ces faits-événements, mais pas encore du programme en langue française de Radio Prague. Celui-ci se poursuit avec la rubrique touristique. Cette semaine, Magdalena Rozinková nous emmène à la découverte du plus ancien jardin botanique de République tchèque. Ce jardin botanique a été ouvert en 1895 à Liberec, en Bohême du Nord, et accueille chaque année pas moins de 200 000 visiteurs. Ses collections végétales comptent quelques 8 500 espèces en provenance du monde entier, dont le bonsaï le plus ancien en Europe, ou le nénuphar géant Victoria Amazonica. Visite du jardin des plantes et notamment de ses serres tropicales en compagnie du directeur et spécialiste des plantes carnivores Miloslav Studnička.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc.
Padá tady vodopád. Možná půjdeme ven ke skamenělinám. Tam nebudu muset tolik křičet.
Bonjour, nous sommes dans le jardin des plantes de Liberec, une des principales villes de République tchèque au patrimoine historique et industriel, ville à la population majoritairement allemande jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est située en Bohême du Nord, au pied des monts de Jizerské hory. Ce jardin des plantes est donc le plus ancien dans le pays, mais surtout il est réputé pour son complexe de 9 serres modernes ouvertes au public en 2000. Étalées sur une superficie de 3000 m², elles abrite plus de 6000 espèces de plantes tropicales étagées sur 2 niveaux, ainsi qu'une exposition des fossiles, des aquariums et des volières avec des oiseaux exotiques. Les expositions dans les serres invitent à des voyages différents qui nous font découvrir la flore des forêts tropicales humides, de la jungle asiatique et de l'Afrique équatoriale. Un des pavillons présente la forêt de l'air primaire. D'autres sont dédiés aux cactus, aux plantes carnivores, à la végétation des milieux arides ou encore aux orchidées. Le directeur du Jardin des Plantes, Miloslav Studnička, nous accueille dans la serre d'Australie. Terre rouge, formation rocheuse de granit, arbustes, dont certains partiellement brûlés, oiseaux. L'ambiance du bush australien est instaurée. Miloslav Studnička.
Ça, c'est une curiosité. La plus grande plante de la famille des orties au monde, la Dendrocnide moroïde. C'est une plante dangereuse. Voilà pourquoi elle est placée loin du parcours de sa visite. Sa piqûre doit être soignée à l'hôpital. Et nous voici au pavillon Néotropis, au cœur d'une forêt tropicale humide de l'Amérique. En été, cette bassine est entièrement occupée par l'orchidée géante, la Victoria Amazonica. C'est un peu surprenant vu ses dimensions, mais il s'agit d'une plante annuelle. Maintenant, en février, nous allons bientôt la semer. Presque chaque plante ici a son histoire. Par exemple, ce yam mexicain, que j'ai d'ailleurs vu en pleine nature au sud du Mexique, il est à l'origine de la contraception. Dans cette plante, on a découvert pour la première fois que l'on pouvait tirer des hormones d'une substance végétale. Et grâce à cet arbre-là, la Manilcara zapota, on connaît le chewing-gum. Pour le fabriquer, on utilise toujours le latex sécrété par cet arbre.
Manilcara zapota, že ten latex této rostliny je základem žvejkačky do dnes.
Pour obtenir de nouvelles acquisitions, le jardin de Liberec procède régulièrement à un échange de graines entre différents jardins botaniques du monde. À part la Victoria Amazonia, Liberec possède d'autres végétaux rares et précieux. notamment le palmier liège Microcicas calocoma, une espèce endémique de Cuba menacée d'extinction. L'exemplaire qui se trouve à Liberec est le seul qui existe en Europe. Ou encore une autre espèce menacée, Manie d'Afrocarpus, un arbre conifère indigène qui ne pousse que sur l'île de São Tomé dans le golfe de Guinée. Miloslav Studnička.
Nous avons aussi plusieurs plantes précieuses du point de vue historique, par exemple les camélias qui se classent parmi les plus anciens en Europe, ou bien une espèce mexicaine, Erythrina, qui doit avoir au moins 200 ans. On ne sait pas comment elle s'est retrouvée ici, je pense que c'est une confiscation d'après-guerre. Elle est superbe. Chaque année, elle émerveille les visiteurs par sa longue floraison rouge vif. Il ne faut pas oublier que nos collections abritent le bonsaï le plus vieux en Europe, qui doit avoir plus de 200 ans. Nous l'exposons une fois par an.
L'histoire du jardin des plantes de Liberec commence en 1893 lorsqu'une association locale des Amis de la Nature, qui avait à l'époque un nom allemand, achète le terrain de l'actuel jardin.
Le jardin a ouvert 2 ans plus tard. Ce n'était pas un jardin botanique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas de serre, uniquement des plantes ligneuses. C'était en fait un lieu de production horticole pour Liberec. À l'époque, ces jardins étaient populaires. Ils faisaient partie de la vie culturelle de la ville. La première serre a été construite dans l'entre-deux-guerres. Elle abritait surtout des palmiers et des plantes que l'on cultivait dans les orangeries de château et dans les jardins d'hiver. Cette histoire, nous l'évoquons dans notre pavillon numéro 1, où nous montrons les plantes oubliées, les camélias les plus anciens en Europe. Ce pavillon est une réminiscence de cette première serre de notre jardin.
Après la Deuxième Guerre mondiale, le jardin botanique de Liberec est dévasté. Entre 1956 et 1980, au total 11 serres d'exposition et 4 serres de cultivation sont édifiées, non pas par des spécialistes, mais par des volontaires qui manquaient de matériel de qualité. Depuis les années 50, le jardin occupe une surface de 2 hectares. Miloslav Studnička.
Au fil des années, les collections du jardin se sont agrandies. Mais là encore, c'était une tâche très difficile. Aujourd'hui, le monde nous est grand ouvert, mais à l'époque, quand les botanistes ne pouvaient voyager qu'en RDA, c'était un autre style de travail. Nos voisins, en Allemagne de l'Est, travaillaient dans de meilleures conditions, car ce pays avait une longue tradition de jardin botanique. Le premier directeur de notre jardin des plantes après la guerre, Pavel Smrch, était en fait un excellent manager et diplomate aussi. Il a eu de bonnes relations avec les botanistes allemands et grâce à lui, le jardin a acquis de nombreuses plantes et a pu fonder des collections de qualité.
En 1970, le directeur Pavel Smrch est révoqué pour des raisons politiques. Jusqu'à la révolution de velours, la gestion du jardin est entièrement contrôlée par les autorités communistes et sa réputation de centre de recherche et de diffusion de connaissances se dégrade. Au début des années 90, le jardin des plantes reprend vie, avec notamment l'aménagement du jardin alpin et du parc. Parallèlement, on démonte les anciennes serres délabrées et on construit un complexe moderne composé de 9 bâtiments de verre et de fer juxtaposés à la hauteur différente, bâtiments qui rappellent une structure cellulaire et cristalline. Un concept inventé par l'architecte Pavel Vaniček et le directeur Studnička.
Cette structure serrée est assez particulière. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose d'atypique. On a construit des serres de ce type à Francfort, mais là-bas, les bâtiments forment plutôt une étoile, ce qui n'est pas trop avantageux. Quand les constructions sont serrées l'une contre l'autre, cela assure une isolation thermique et donc des économies d'énergie. Nos serres demeurent très modernes. À titre d'exemple, nous avons accueilli récemment les botanistes du jardin botanique de Leiden, spécialisés dans la flore de l'Asie tropicale et très réputés à l'échelle européenne. Ils veulent moderniser leurs serres et sont venus voir comment cela fonctionnait chez nous.
Le jardin des plantes de Liberec a encore une vocation particulière. Depuis 2003, il récupère des plantes illégalement importées dans le pays et confisquées à la douane. Quel est actuellement le nombre de ces importations illégales vers la République tchèque, Miroslav Studnička?
Il s'agit de cas, je dirais, sporadiques. Les gens ont compris que le risque était trop grand. Seuls les amateurs de cactus continuent à dévaster la nature. Mais les plantes qui leur sont confisquées n'ont plus la même valeur, du fait qu'ils ne pourront plus être replantés dans la nature. Quand elles arrivent chez nous, nous les soignons, ce qui est assez coûteux, et nous essayons de les habituer à un autre milieu. C'est difficile. Les plantes qui quittent leur microclimat supportent mal le trajet et les conditions artificielles qu'on leur impose. Parfois, elles mettent 2 ans pour s'acclimatiser. Après une procédure judiciaire, une nouvelle question s'impose. Que faire avec la plante? Les jardins botaniques ont peu de place et ne sont pas forcément intéressés par une caisse de cactus de Bolivie. Nous cherchons quand même à les placer quelque part. Il arrive aussi que ces plantes restent chez nous et enrichissent nos collections. Personnellement, je pense qu'il serait bien de les faire revenir grâce aux scientifiques dans leur milieu naturel, aux frais des importateurs. Cela leur reviendrait beaucoup plus cher que les amendes qu'on leur fait payer.
Le jardin des plantes de Liberec se trouve à proximité du centre-ville, à quelques pas du zoo de Liberec. Il est ouvert tous les jours de 8h à 16h en hiver et de 8h à 18h en été. Plus de détails sur son site internet en version tchèque et anglaise, www.botaneliberec.cz.
Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui du bloc actualité du programme en langue française de Radio Prague. Merci encore de votre attention et de votre fidélité.